Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 15 février 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal qui sera suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le commandant en chef de l'armée de terre iranienne a fait part du test d'un missile intelligent d'une portée de 300 km en Iran. La DSA syrienne s'est activée ce lundi 15 février à l'aub pour répondre à une attaque au missile israélien contre Damas, la capitale, et G5 Sahel, l'avenir de l'opération Barkhane au menu du sommet de N'Djamena. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le commandant-en-chef de l'armée de terre iranienne a fait part du test d'un missile intelligent d'une portée de 300 km en Iran. Le général de brigade Amir Kiomar Seydali a déclaré le dimanche 14 février que l'unité de missiles de l'armée de terre a testé un missile d'une portée de 300 km et a évoqué les capacités de l'armée dans le domaine de l'artillerie, des lance-roquettes et des roquettes. Ce missile se place dans la catégorie des missiles de portée moyenne et aujourd'hui, nous le mesurons en termes de précision et de puissance, a-t-il indiqué. Concernant les coordonnées opérationnelles de ce missile, le général Idali a précisé que c'est un missile de précision intelligent et automatisé. Il est prêt à défendre les frontières de la République islamique d'Iran dans différentes conditions météorologiques. Les exercices RTDAL 99, autorité en persan, de l'armée de terre débutés le 19 janvier dernier, sont une démonstration du pouvoir de dissuasion des forces terrestres iraniennes. Ils ont duré 2 jours sur les rives de Makran. Y ont participé les brigades aéroportées de Shiraz, des forces spéciales et de réaction rapide avec le soutien de l'armée de l'air. L'exercice comprenait des opérations nouvelles, notamment des opérations aériennes et navales combinées, utilisant du matériel de plongée approprié CCTV ainsi que des raids nocturnes sur des hélicoptères aéroportés utilisant des systèmes de vision nocturne. L'Iran et la Russie organiseront bientôt un exercice naval conjoint dans le nord de l'océan Indien, a réaffirmé le coordinateur adjoint de l'armée iranienne. Le contre-amiral Habibullah Sayali a déclaré le dimanche 14 février que la participation de la puissante marine de la Russie à un exercice conjoint avec les forces navales de l'armée iranienne et du corps des gardiens de la révolution islamique mettait en évidence les grandes capacités maritimes des forces armées iraniennes. Quant aux équipements, forces humaines, techniques, tactiques, systèmes de communication et commandement, la marine iranienne se trouve au même niveau que les puissances mondiales, a souligné l'amiral Sayari, qui a ensuite ajouté que l'exercice conjoint Iran-Russe visait à assurer la sécurité du nord de l'océan Indien. Depuis la victoire de la révolution islamique, l'Iran fait face à de nombreuses menaces, mais tous les plans des ennemis ont jusqu'ici échoué en raison de la puissance de dissuasion des forces armées de la République islamique d'Iran que nous devons continuer de renforcer, a déclaré le coordinateur adjoint de l'armée. Le contre-amiral Sayari a indiqué que les forces armées de la République islamique d'Iran, notamment l'armée iranienne, avaient pour mission d'assurer l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays et qu'elles étaient en mesure de neutraliser les menaces actuelles et futures. Lundi 8 février, l'ambassadeur de la Russie en Iran a fait part de la décision de Téhéran et de Moscou d'organiser un exercice naval conjoint la mi-février dans les eaux de l'océan Indien. Le mouvement irakien Saïb al-Haq a publié le dimanche 14 février un communiqué exhortant le gouvernement turc à respecter les principes de bon voisinage et à retirer ses troupes d'Irak et de toutes les zones frontalières. Le communiqué indique que l'armée turque a menacé d'envahir de nouveau le territoire irakien. Selon certaines informations, la Turquie envisagerait de lancer une offensive militaire dans la région montagneuse de Sinjar, libérée des mains de Daesh au prix du sang de nombreux Irakiens. Nous condamnons la violation de la souveraineté de l'Irak, mais l'occupation du territoire irakien par la Turquie, pays voisin et musulman, est une violation de toutes les valeurs divines et du droit international, alors que nos relations doivent être basées sur le bon voisinage, le respect et la coopération mutuelle, lit-on dans le communiqué. Le mouvement appelle le gouvernement de Bagdad à user de son pouvoir légal pour s'opposer fermement à une telle agression et procéder conformément à la volonté du peuple à l'expulsion de toutes les troupes étrangères du pays. Il appelle aussi le peuple irakien à se joindre et soutenir l'armée et le soulèvement populaire dans le but de mettre fin aux hostilités et de rétablir rapidement la stabilité et la sécurité dans le pays. Sous prétexte de combattre le PKK, le président turc a récemment déclaré que les forces turques pourraient lancer à tout moment une opération à Sinjar. Les préoccupations de la Turquie, du Kurdistan irakien et du gouvernement fédéral d'Irak à propos de Sinjar ont débouché sur un accord pour le déploiement des forces fédérales et des Peshmerga à Erbil et Bagdad depuis l'automne 2021. Depuis quelque temps, de nombreux rapports font état des attaques turques contre Sinjar et de son occupation sous prétexte d'affronter le PKK. L'aéroport international d'Apa a été de nouveau frappé par les forces yéménites. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sali, a déclaré dimanche que les combattants yéménites avaient attaqué l'aéroport international d'Apa en Arabie saoudite en réponse aux raids aériens saoudiens et au blocus du Yémen par la coalition d'agression dirigée par Riyad. L'aéroport saoudien a été frappé par deux drones de type Samad 2 et Samad 3. 6 ans après son déclenchement, la guerre du Yémen est porteuse de nombreuses leçons stratégiques, militaires et politiques, indique le site web Al-Ruds Al-Arabi. La guerre du Yémen semble vivre ses dernières phases en raison des capacités accrues des Yéménites de prendre pour cible le territoire saoudien ainsi qu'à la décision de Washington de mettre un terme sur son soutien à la coalition d'agression saoudienne. Mais avant qu'elle ne prenne fin, il convient d'en tirer des leçons. Comment un pays riche aux immenses ressources militaires s'est vu incapable non seulement de remporter la guerre, mais de protéger son espace aérien et sa terre, indique l'article. La DSA syrienne s'est activée le lundi 15 février à Alep pour répondre à une attaque aux missiles israéliens contre Damas, la capitale. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté, citant l'armée syrienne, que les défenses aériennes du pays avaient intercepté une agression israélienne contre la capitale. Des avions militaires israéliens ont survolé les hauteurs du Golan pour frapper des cibles sélectionnées à la périphérie de la capitale. La DSA a abattu la plupart des missiles, apprend-on du communiqué de l'armée qui toutefois ne mentionne pas le nombre des victimes. Nos défenses aériennes continuent de repousser les attaques de missiles israéliens au-dessus de la capitale, a déclaré l'armée syrienne. 5 pays du Sahel et la France se réunissent en sommet lundi 15 février pour faire le point sur la lutte antiterroriste dans la région. Les présidents du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, sont annoncés présents à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président français Emmanuel Macron participera pour sa part en visioconférence. L'engagement de l'armée française au Sahel et la question de son éventuel retrait dans la région seront aussi au centre des discussions. Le sommet de 2 jours, associant dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux, a lieu 1 an après celui de Pau, sud-ouest de la France, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir terroristes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina, et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4 500 à 5 100. En dépit des succès tactiques revendiqués, le tableau demeure très sombre, plus de 8 ans après le début, dans le nord du Mali, d'une crise sécuritaire qui continue à étendre ses métastases à la sous-région. Quasiment pas un jour ne passe dans les 3 principaux pays affligés sans une attaque contre ce qui reste de représentation de l'État, l'explosion d'une mine artisanale ou des exactions contre les civils. L'armée française prétend avoir sérieusement affaibli Daesh et tué plusieurs chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, mais les 2 principales nébuleuses terroristes restent très actifs. Il y a 1 an à Pau, en janvier 2020, après l'envoi d'un ultime renfort de troupes, Emmanuel Macron avait promis de faire un état des lieux de l'engagement français dans la région avec les chefs d'État du G5 Sahel. Après 8 ans de guerre, ce rendez-vous à distance par visioconférence pour le président français, du moins, avait été présenté comme la possible occasion d'annoncer des décisions couperées, dont un début de retrait de l'armée française. Le contexte s'avère cependant plus complexe que prévu. La question de l'ajustement du dispositif et de ses modalités sera discutée au cours des prochaines semaines ou mois avec nos partenaires, indiquait-on ainsi prudemment jeudi à l'Élysée. Sur ce genre de dossier, le chef de l'État a habitué ses collaborateurs à des revirements de dernière minute. Rien n'est donc à exclure, mais l'élan se relève bien plus ténu que celui qui était porté notamment par l'état-major des armées depuis fin 2020. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Israël ferme son espace aérien. Est-ce pour cause de COVID-19? Pour la seconde fois depuis le début de l'année en cours, le cabinet sécuritaire israélien a ordonné dans la précipitation la fermeture de l'aéroport international de Ben Gurion et partant de l'espace aérien d'Israël, et ce sous prétexte pandémique. La mesure prise sur fond d'un cocorico sanitaire visant à faire croire à un miracle israélien en termes de contrôle COVID-19 a pris de court des milliers de sionistes éparpillés à travers le monde. Netanyahu, lui, l'a défendu au nom des mutations virales qu'il faut éviter à tout prix. Mais est-ce la vraie raison? Le samedi 13 février, à peine quelques heures après des remaniements hâtifs au sein du renseignement de l'armée sioniste, Amman, lesquels remaniements répondraient selon des fuites à une opération commando hostile visant la plus grande base aérienne d'Israël, Nevatim, et surtout ses hangars de F-35 à dire. Et alors que l'enquête sur ce mystérieux braquage qu'Israël dit être l'œuvre des Bédouins du Negev et en retrouvait soudain d'extraordinaires capacités de forcer un impressionnant système de surveillance composé d'un double mur, d'un fossé et des barbelés électriques, un avion israélien s'est écrasé à Afoula, à 80 km des frontières du territoire occupé avec le sud Liban. Une première information sur l'incident, visiblement produit vers midi et rapportée par la chaîne 13 israélienne, est bien vague et refuse d'identifier l'appareil comme civil ou militaire, se contentant uniquement de signaler que ses 2 passagers ont été blessés. C'est quelques heures plus tard que cette même source annonce, sans trop de détails, la mort de ces 2 passagers. Est-ce un incident? Rien n'est moins sûr. Début février, en l'espace d'à peine 4 jours, 4 drones de l'armée sioniste ont été interceptés de façon quasi synchrone à 2 extrémités nord et sud des territoires occupés sous les yeux ahuris d'une armée sioniste qui s'offre à protéger le ciel des alliés du Golfe. La dernière interception, celle d'un drone tactique de type Hermes 450, avec comme souligne la page d'accueil du constructeur Elbit, quelques 300 000 heures de mission réussies à occuper le souffle aux Israéliens. Le coup signé, le Hezbollah a fait sortir l'entité d'une longue et fatale torpeur. Le ciel du Liban échappe après 6 ans de totale emprise à compter du retrait de l'armée syrienne du sud du Liban en 2005 à l'entité et il n'est plus cette base arrière d'où lancer impunément des raids aux missiles de croisière contre la Syrie ou le Liban. S'il est vrai que l'armée israélienne s'est refusée de reconnaître le coup de jarnac aérien que le Hezbollah vient de lui infliger, les chroniqueurs militaires israéliens ne peuvent pas, eux, cacher leur tête dans la sable. Dans un article daté du dimanche 13 février, Yoav Limar, qui écrit pour Israël Hayom, affirme que Nasrallah vient de tenir la parole, et ce de la pire des façons qui soit pour Israël. Une promesse faite il y a 2 ans quand un drone israélien s'en est pris à Zahia, au sud du Liban, ayant fait dire au Hezbollah que le mouvement fermera définitivement le ciel libanais à Israël.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 12 février 2021. À la tête d'une délégation de haut rang, le chef du pouvoir judiciaire iranien a effectué une visite de 3 jours à Bagdad, capitale irakienne. Au cours de son séjour, Saïd Ebrahim Raisi a notamment rencontré le président irakien Bahram Saleh, le premier ministre Mustafa al-Kazemi et le chef du Conseil judiciaire suprême d'Irak, Faer Zeidan. Le renforcement de la coopération judiciaire et juridique, mais surtout la poursuite de l'affaire de l'assassinat du général Qassem Soleimani était l'un des objectifs importants de ce déplacement. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a remercié l'Irak pour ses prises de position et les récentes mesures prises concernant cette affaire, en particulier la délivrance d'un mandat d'arrêt contre plusieurs personnes, dont l'ancien président américain Donald Trump, qui a directement ordonné l'assassinat du général Qassem Soleimani, mais aussi numéro 2, en effet, de Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce déplacement de 3 jours de M. Raisi à Bagdad, son message, son importance, la perspective, en effet, de la coopération judiciaire et juridique irano-irakienne, mais surtout la situation et l'avenir de la présence des troupes américaines en Irak, en particulier dans la région en général. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef du pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ebrahim Raisi, a rencontré le mardi 9 février à Bagdad son homologue irakien Faiq Zeidan. Lors d'une conférence de presse conjointe ayant suivi cette rencontre, l'ayatollah Raisi a salué l'essor des relations et des coopérations judiciaires et juridiques entre l'Iran et l'Irak. Le déplacement des pèlerins et la lutte contre la corruption étaient aussi au menu de nos discussions, a-t-il ajouté. Dans la foulée, Ebrahim Raisi a fait part de la signature d'un accord portant sur la lutte contre la corruption. Aucun complot ne pourra influencer ni entraver les relations entre les nations iraniennes et irakiennes, a-t-il souligné. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a également remercié la justice irakienne pour avoir assuré le suivi du dossier de l'assassinat du général de corps d'armée Qassem Soleimani et d'Abu Mehdi el-Mohandes. « Nous avons discuté avec la partie irakienne d'une réponse à l'assassinat des commandants martyrs », a déclaré l'ayatollah Raisi. De son côté, Fayez Zeidan a réaffirmé avoir examiné avec son homologue iranien l'assassinat de Qassem Soleimani et d'Abu Mehdi El-Mohandes. Il a précisé que des informations avaient été échangées entre les deux parties à propos de ce dossier. L'ayatollah Reissi, qui dirige une haute délégation judiciaire, est arrivé lundi 8 février à Bagdad, où il a été accueilli en grande pompe par des responsables de haut rang irakiens. Depuis l'arrivée à Bagdad de l'ayatollah Reissi et la délégation qui l'accompagne, trois notes d'entente au sujet de la lutte contre la corruption, des prisons et des coopérations judiciaires ont été signées entre les deux parties. Lors des pourparlers officiels auxquels ont participé les délégations judiciaires iraniennes et irakiennes, le juge irakien chargé du dossier de l'assassinat de Qassem Soleimani et d'Abu Mehdi El-Mohandes a rappelé le mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'ex-président des États-Unis pour avoir commandité l'assassinat. Par ailleurs, le chef d'état-major adjoint des Hashd al-Shaabi ont souligné de nouveau que les forces américaines devraient quitter le sol d'Irak. Selon le site d'information irakien El Moulama, Abu Ali El-Bassari a déclaré que la loi adoptée par le Parlement sur l'expulsion des forces américaines était un véritable souhait de la nation irakienne. Si les militaires américains négligent la loi du Parlement, les Hashd réaliseront de nouveaux plans pour les expulser, a-t-il averti.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse, monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Paris, madame Aïssar Midani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Midani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de l'invitation. Bonjour à vous, à toute l'équipe Presse TV, à monsieur Dortiguier et à tous vos spectateurs, vos téléspectateurs.
Madame Midani, alors un tournant à dans les relations, dans la coopération judiciaire et juridique irano-irakienne, le déplacement du chef du pouvoir judiciaire iranien à Bagdad, à cette visite de 3 jours, ses entretiens avec les responsables irakiens de haut rang, dans le contexte actuel des évolutions de la région, et bien entendu, alors plus d'un an après l'assassinat du général Qassem Soleimani et d'Abu Mahdi El-Mohandes. Quel premier regard portez-vous sur cette visite ?
Écoutez, je crois qu'elle est très, très importante. Elle revêt une importance primordiale parce qu'au-delà, effectivement, de la coopération militaire et de la coopération économique, il était important, effectivement, de tisser les liens d'une coopération juridique et d'une véritable stratégie commune, puisque l'ennemi est le même, l'ennemi est commun, d'autant plus, en plus, c'est un crime qui a été commis contre des personnalités iraniennes et irakiennes sur le sol de l'Irak et qui est pays souverain. Et alors que Qassem Soleimani était l'invité et l'hôte de ce pouvoir, de ce pays souverain. Et les Américains ont commettre un assassinat qui est des plus vils et des plus criminels. Et puis, il est clair que tout de suite, en fait, l'ex-président Trump, il a tout de suite dit « c'est moi qui l'ai commandité, c'est nous qui l'avons fait ». Il s'en vantait en plus. Donc en fait, il est important effectivement de faire bouger à la fois au niveau des structures juridiques des pays, des deux pays, puisque ça a été commis sur le sol irakien aussi, d'activer les structures juridiques et puis les procès contre ces personnes, contre Trump et les exécutants de ce vil assassinat. Mais aussi, il est important aussi d'allier les forces pour activer les structures juridiques internationales Et là, plus on est unis, plus on peut les faire aller dans le sens de la justice, parce que, comme on le sait, dans toutes les structures internationales, malheureusement, le poids des Américains est très présent, le poids des grands financeurs, je dirais, est très présent. Et donc là, il est important, effectivement, de pouvoir faire opposition à ce poids-là et réunir aussi bien non seulement les forces qui sont sur le terrain, mais aussi des forces alliées pour réclamer justice. Et ce n'est pas le seul assassinat. Je voudrais aussi rappeler que dans cette période aussi, il a été question, c'est l'anniversaire aussi de l'assassinat du grand militant Jihad Mourniyeh. Aussi, et donc nombreuses personnalités de l'axe de la résistance ont été assassinées par Israël, par les Américains. Donc tout ça, c'est important effectivement qu'au sein de l'axe de la résistance, on allie nos efforts à la fois aussi juridiques, mais aussi sur le haut niveau du droit international, mais aussi bien sûr, comme c'est le cas, au niveau militaire, je dirais, au niveau économique et au niveau stratégique, politique en fait, de stratégie politique. Donc, ça c'est un point. Le deuxième point, je pense que c'est très important parce que ça vient renforcer aussi et donner une portée juridique aux décisions qui ont été prises aussi bien en Iran qu'en Irak, pour mettre fin à la présence américaine dans la région, qui est complètement une présence illégale, qui est la présence d'un occupant sur les terres de pays souverains, comme c'est le cas de l'Irak et le cas de la Syrie aussi. Donc il est important que ces Américains finissent par se plier à la loi internationale et tenir compte des décisions de l'ONU qui ont été votées et des décisions des instances de souveraineté du pays, donc le Parlement, les États et toutes les décisions qui ont été prises. Il faudra qu'ils finissent par se mettre au pas, comme tous les autres pays, à respecter les lois internationales.
Merci infiniment pour ces éclairages, Madame Midani. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous vos auditeurs et à Madame Midani.
Monsieur le professeur, dans quelle mesure le renforcement de la stratégie irano-irakienne comme l'a souligné Mme Midani, non seulement sur le plan militaire et économique, mais surtout sur le plan judiciaire et juridique, comme c'est le cas, en effet, du déplacement du chef du pouvoir judiciaire iranien à Bagdad. Dans quelle mesure le renforcement de cette stratégie pourra, d'une part, activer les structures juridiques internationales pour, bien entendu, à forcer les États-Unis à se plier devant le droit international, d'une part, et d'autre part, pour faire face, en effet, à l'ennemi numéro un des deux pays, à savoir, bien entendu, les États-Unis, l'administration américaine, l'administration de l'ancien président Donald Trump, qui a directement ordonné l'assassinat du général Qassem Soleimani et du commandant adjoint de Hashd al-Shaabi.
Eh bien, on peut dire en un mot que ce renforcement juridique est une affirmation de l'État, de la force de l'État et d'un ordre international, naturellement. En premier, quand même, la force de l'État, et c'est la seule réponse, à notre sens, à donner à cet acte, de pure violence, qui a été celui de l'initiative américaine, revendiquée sans ambiguïté, ouvertement, franchement, par l'ancien président des États-Unis, avec cynisme, bien sûr. Je dirais que le président, certainement, l'a fait, si on peut interpréter, une telle méthode américaine, l'a fait parce qu'il sentait qu'il avait, certainement, à l'intérieur de certains milieux, disons, un appui. C'est-à-dire que, ou tout au moins, cet appui, non pas un appui, une collaboration, mais qui avait des vides, justement. C'est-à-dire que jamais, à mon sens, je n'ai connu, disons, d'action judiciaire ou juridique entre plusieurs États agressés, comme le sont l'Iran et l'Irak, en Orient, car les rivalités de régimes, de personnes, etc., empêchent simplement le droit de s'exprimer. Il ne faut pas confondre ici le droit et la politique. Le droit, c'est le fait qu'un État est souverain, qu'un État doit, lorsqu'il décide quelque chose, il faut naturellement que l'ensemble de la législation internationale le suive. C'est une des raisons pour lesquelles les Nations Unies ont été créées, non pas pour assurer ce droit des États qui a existé, bien sûr, avant l'organisation internationale. Alors, je crois que c'est le passage, disons, peut-on dire, d'un état de minorité à un état de majorité, d'affermissement. Les Américains, je ne parle pas seulement de M. Trump, mais car derrière M. Trump, il y a toute une administration, bien sûr. Les Américains sont habitués, et d'autres États, à ce qu'on appelle la loi du plus fort, et à ne mesurer les gens que d'après leur capacité de réponse, leur capacité militaire, disons leur capacité de violence. Et là, disons, il y a une violence qui est juste, et une violence qui est hasardeuse. La violence juste, c'est celle justement du droit. Nous le connaissons, enfin, chacun le sait, depuis l'Empire romain, depuis l'ancien Empire perse jusqu'à maintenant. Disons, c'est ainsi que les États ont subsisté et que l'humanité s'est préservée. Maintenant qu'il y ait des enquêtes, je dirais aussi qu'à l'occasion de cet accord, il y ait des enquêtes, par exemple, je ne dis pas sur des complicités, mais disons sur des faiblesses dans le domaine, disons, des services de renseignement ou autre, par exemple en Irak, ceci naturellement devrait évidemment apparaître. Il est certain que les Américains ont profité quand même d'une structure très faible. Et ils savaient, s'ils ont pu agir, c'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient agir. Et je dois dire que je ne dis pas que nous ayons tous une grande expérience de la politique, mais disons quand même, je n'ai jamais vu, même dans le climat de la guerre froide ou pendant la Seconde Guerre mondiale, des chefs d'État demander l'assassinat ouvertement d'un autre homme. Je dois dire que c'est la première fois que je me trouvais face à cette audace, disons. Et cette audace vient justement du fait que le droit a été absent, plutôt à travers le droit, la réalité des États a été absente. Et cette visite permet justement disons, non pas seulement de rapprocher deux pays, mais de fortifier communément la structure de leurs États. Et c'est cela, d'ailleurs, qui est la seule réponse, à mon sens, à toutes ces recherches, depuis l'équipe Bush jusqu'à aujourd'hui, à toutes ces recherches de désordre, de politique par le chaos, etc.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur, restez avec nous. Madame Idani, il y a plus d'un an, alors une semaine presque après alors le tir de missile du CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, sur la base américaine d'Ayn al-Assad. Le leader de la révolution islamique avait qualifié en effet ces tirs d'une première gifle, mais avait souligné que la grande vengeance, en effet, ne tarderait pas à venir. Et que l'expulsion, en effet, des troupes américaines de l'Irak et de la région tout entière serait la grande vengeance pour le sang des martyrs de la résistance. Il paraît qu'aujourd'hui, justement, avec le renforcement de la coopération juridique, judiciaire, militaire, au sein de l'axe de la résistance, la Syrie, l'Irak et l'Iran, il paraît que, justement, l'heure de la grande vengeance s'approche, Madame Midani, n'est-ce pas?
Je pense que l'heure de la grande vengeance s'approche, mais il ne faut pas non plus nier que le fait que les Américains se renforcent aussi renforcent leur positionnement dans la région. Il y a de plus en plus de forces qui rentrent en Syrie, beaucoup de matériel, beaucoup de terroristes. Il y a plus de 10 000 terroristes de Daesh qui ont été déployés, alors venant de la base Al-Tanf, et du nord de l'Irak aussi. La Turquie aussi, avec les terroristes qu'elle soutient, ils renouvellent aussi leurs agressions contre les populations, aussi bien au nord de la Syrie, au nord-est, en Irak. Il y a ces réactions aussi qui, moi, je pense, entre les États-Unis et la Turquie, il y a une sorte de partage de rôle. On a vu aussi que les agressions israéliennes se multipliaient aussi contre la Syrie ces derniers temps, contre le ciel libanais aussi, il y a eu des violations du ciel libanais. Moi, je dis, de toute façon, ils ne savent plus où donner de la tête parce qu'ils s'enlisent, en fait. Et c'est très, très bien, en fait. Ça montre qu'ils sont un petit peu aux abois où ils sont, et ils sont en train de vouloir montrer et prouver à la nouvelle administration américaine qu'ils sont capables de continuer les agressions, alors que effectivement le projet du nouveau Moyen-Orient, le projet américain en fait de cette division, etc., a été mis en échec jusqu'à présent, mais un échec cuisant en fait, alors qu'ils le disent et ils déclarent que de toute façon ils ont dû dépenser des milliards pour rien. Et des centaines de milliards, que dis-je, en fait, des centaines de milliards pour rien, et qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont peut-être dans la panade, mais en tout cas, ils sont toujours très agressifs et il faudra toujours qu'on renforce, je dirais, nos liens au sein du front de la résistance, qu'on renforce notre stratégie, qu'on fasse aussi mûrir le projet de l'axe de la résistance, non pas seulement en tant que résistance, mais aussi en tant que construction alternative. Nous avons aussi non seulement à résister au blocus américain qui touche tous les pays de cet axe aujourd'hui, qui veut mettre à genoux l'ensemble des pays. Bien sûr, et l'Iran a montré toute sa force, l'Irak essaye, la Syrie essaye. Le Liban est un petit peu le maillon faible parce qu'ils utilisent une grande frange de l'intérieur de la population de ce pays. Et donc, il est important, en fait, qu'on puisse construire aussi une stratégie commune, non seulement de résistance, mais de construction d'un axe alternatif et d'un monde alternatif dans cette région. Et merci, ça, je crois que c'est en bonne voie. Et c'est très bien.
Merci, merci encore. Une toute dernière question à M. le professeur Dortiguer. Monsieur le professeur, justement, la perspective, en effet, de cette confrontation qui a d'ailleurs toujours existé, au moins au cours des dernières années, entre le Front de la Résistance et les Américains. Donc, qu'est-ce qui va sortir de cette confrontation avec, bien entendu, en toile de fond, alors les projets divisionnistes et bellicistes des Américains de l'axe américano-israélien et bien entendu du renforcement du front de la résistance sur de nombreux aspects.
Ce que nous souhaitons en tout cas, disons, et ce qui devrait être la réponse physique, disons, enfin, comme d'une force contre une autre, c'est que devant cette aggravation encore de l'intervention américaine, comme l'a souligné Mme Misani, vous savez que des forces très importantes de soldats interviennent, etc., en Syrie, et que la politique de Biden est aussi agressive, à notre avis, beaucoup plus agressive même que l'a été la politique de M. Trump. Je crois que la seule réponse que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est justement pas la fusion, mais disons une politique de collaboration très étroite entre au moins en premier entre l'Irak et l'Iran. Et ceci est attendu par tout l'Orient. Et c'est justement, il faut bien le dire, après les guerres provoquées et autres entre l'Irak et l'Iran, ce sont ces guerres-là, ces affrontements, qui ont permis justement, avec l'écrasement bien sûr de l'État irakien, qui ont permis justement aux Américains et à leurs alliés ou à leurs maîtres, tout dépend comment on voit les choses, d'intervenir. Ils pensaient ainsi intervenir durablement devant justement l'écroulement des structures étatiques et surtout l'inimitié qu'ils pensaient, disons, vivace à travers les générations entre l'Irak et l'Iran, et avec en plus des divisions sur le plan confessionnel et autres. Je crois qu'aujourd'hui nous assistons peut-être à la défaite à l'amorce de la défaite de la politique ancienne de M. Bush, voyez-vous. C'est-à-dire que je crois que c'est cela qui est très important. Et là-dessus, nous revenons à la première question, c'est-à-dire l'union des États, c'est-à-dire l'union juridique, la collaboration juridique, disons, on peut dire, est la réaffirmation de cet État, de la puissance des États. À notre avis, c'est la seule réponse, la réponse de la raison à la violence. C'est tout. Je crois que là, c'est une forme de maîtrise de soi qu'ont eu l'Irak et l'Iran, qui étaient autrefois, je me souviens très bien de cette guerre qui a opposé les deux pays. Je crois que là-dessus, nous pouvons compter que la sagesse l'a emporté sur, les manipulations, dont les États-Unis et d'autres États autour ne peuvent que profiter. Je crois que ça, c'est un grand progrès, c'est un progrès de la sagesse.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguière, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Poursuivant notre randonnée à Shiraz, que nous avons commencé la semaine dernière, nous allons vous présenter des monuments historiques de ce chef-lieu de la province de Fars. Le mausolée de Shah Cherak. Ce mausolée, qui est le principal lieu de pèlerinage de la province, abrite le tombeau du fils du septième imam des chiites, l'imam Moussa Kazem, qui, décidant de rejoindre son frère l'imam Reza, alors dans le Khorasan, fut assassiné en chemin par les agents du calife abbasite Mahmoud et enterré à Shiraz. Outre sa valeur spirituelle pour les chiites, le mausolée en lui-même a une importante valeur historique et architecturale. À l'est du mausolée, on peut également visiter la mosquée Jame Atir, l'une des plus anciennes de la ville. La mosquée Nasirul Mulk, datant de l'époque Qajar, elle se situe également à proximité du mausolée de Shah Cherak. Elle comporte deux ivans au nord et au sud, ainsi que deux parties couvertes, Shabestan, à l'est et à l'ouest. Celui situé à l'ouest est le plus beau. Il possède sept portes de bois ornées de verres multicolores, ses murs sont décorés de belles céramiques et son plafond orné de motifs floraux et de versets coraniques. Sa décoration est inspirée de celle de la mosquée Vakil, située dans la même ville. La mosquée Vakil se situe à l'ouest du marché Vakil et à côté du hammam du même nom. Elle fait partie des monuments les plus beaux datant de l'époque Zand et dotée d'une grande importance artistique et architecturale. Construite sur ordre de Karim Khan Zand, cette mosquée est dotée de deux ivans et de deux chabestans. Le marché Vakil, également construit sur ordre de Karim Khan Zand, est situé au centre de Shiraz. La mosquée et le hammam historique du même nom se trouvent à sa proximité. Ce marché tout en longueur est considéré comme l'un des sites les plus beaux restés du règne de Karim Khan Zand. Il semble que ce dernier, après avoir admiré l'ancien marché de l'or datant de l'époque safavide, ait ordonné de construire ce marché à Shiraz, selon le même plan. Il a longtemps été le cœur économique de la ville. Le hammam Vakil, datant de l'époque Zand, a été construit selon les techniques architecturales les plus novatrices de son époque. La forme de l'entrée, les pentes et les angles, tout concourait à conserver la chaleur au maximum. Ces trois monuments se trouvent dans une citadelle qui s'appelle Alge Karim Khan, construite par Karim Khan 1750-1779, souverain de la dynastie Zand, dans sa capitale Shiraz. La citadelle Alge Karim Khan se situait au nord-ouest de la vieille ville, non loin de la porte Barre-Sha et à l'intersection des quartiers Darbe Shahzadeh et Meydane Sha. Elle est aujourd'hui délimitée au nord par l'avenue Nasser Khosrow, à l'est par l'avenue Shapur, au sud par l'avenue de Karim Khan Zand et à l'ouest par l'avenue de Shahrdari. De point de vue architectural, cette citadelle est un grand et noble bâtiment rectangulaire. Elle était entourée originellement d'une douve que l'on disait être aussi grande et profonde que celle qui se trouvait à la frontière de la ville. À chacun des quatre coins de la citadelle se trouvent des tours rondes en forme de cône tronquées d'une hauteur de 15 mètres. Le bâtiment mesure 124,8 mètres d'est en ouest et 93,6 mètres du nord au sud. L'entrée unique se situe au milieu de la façade principale. Lorsque l'on entre, on se trouve face à des couloirs, des salles de garde ainsi que de l'entrée d'un hammam. Comme la plupart des hammams traditionnels, celui de la citadelle de Karim Khan contient également un vestiaire, une salle chauffée, ainsi qu'un bassin polygonal orné de gravures en relief. La cour intérieure abrite deux piscines, un jardin ainsi que trois grands ivans devant lesquels se tiennent de grands piliers en pierre. Chaque ivan contient des grandes pièces à trois portes ainsi que des escaliers menant à de petites pièces ainsi que ivans de l'étage supérieur. Chacun des quatre coins de la citadelle comporte une petite cour donnant accès aux fortifications et aux chambres adjacentes. La structure principale de la citadelle Karim Khan est composée de murs inférieurs, de piliers et de pavés en pierre. Le reste est en fait de briques en terre cuite avec des portes et des chevrons en bois. Les bases des murs extérieurs et des tours sont en pierre carrée dégrossie, tandis que leur partie supérieure est ornée de briques entrelacées. Sur le fronton du porche de la porte d'entrée se trouve une représentation colorée de la scène du combat de Rostam avec le démon blanc sur des tuiles émaillées. Alge Karim Khan devint la résidence royale de nombreux souverains de la dynastie Zand et ses tours ont parfois été utilisées en tant que prison. Ce fut ensuite le siège des gouverneurs généraux du Fars pendant la période Qajar et durant les premières années du règne des Pahlavi. Sa restauration a été entamée en 1977. Aujourd'hui, cette citadelle a été transformée en musée et gérée par l'Organisation du patrimoine culturel. Saray-e-Moshir ou Golshan. Son monument de forme octogonale, datant de l'époque Rajar, est situé au bout du marché Vakil. L'architecture de cette œuvre de Mirza Abul Hassan Khan Mashirul Molk s'inspire du modèle des caravanserais safavides. Dans l'espace fermé de l'octogone, on peut admirer des bâtiments ayant de hauts plafonds carrelés et en murarnas. Darwaz-e-Qur'an se situe au nord-est de Shiraz, entre les monts Chehel Maram et Baba Kuhi. Le tombeau du poète Hafez se situe au nord de Shiraz, près de Darwaz-e-Qur'an, au sein de Khak Mosalla, l'un des célèbres cimetières de la ville. Le tombeau de Sadi se situe à 4 km au nord-est de Shiraz, au pied de la montagne et à côté du jardin d'El-Gosha, le lieu de sépulture de ce poète persan. L'orangerie ou Narengestan de Qavam, ce grand complexe historique construit par Qavam al-Saltané, gouverneur du Fars, à l'époque de Nasser ed-Din Shah Qajar, comprend notamment la maison de Zitat al-Molk, une orangerie et plusieurs hammams. Le jardin Bar-e-Eram se situe à l'extérieur de la ville et à 3 km du mont Baba Kuhi. Il date de l'époque seljoukide. Le bâtiment principal du jardin, construit selon les styles architecturaux à la fois safavide et rajar, comporte 3 étages et un sous-sol où se trouve un bassin orné de belles céramiques multicolores. Le jardin en lui-même abrite de nombreuses espèces d'arbres et est utilisé par l'Université de Shiraz en tant que jardin botanique. Pour le reste, nous nous contentons de citer seulement les noms. Le mausolée de Khajouye Kermani, contenant le tombeau de ce grand poète, Emarate Kola Farangi, le musée Pars, datant de l'époque Zand, le Divan Khané, un édifice datant de la période Zand, utilisé à l'époque comme centre gouvernemental, et plusieurs autres jardins de Shiraz.